Allô?
Coucou, ça va?
Ouais, toi?
Ouais, je t'appelle parce que j'ai eu une idée.
Ouais, c'est quoi?
Bah tu vois, en vrai, on a pris l'habitude de parler de féminisme toutes les deux. Enfin, je sais pas, quand on se documente, on partage des infos et tout. Et je me suis dit que ça serait sympa de partager ce qu'on découvre avec d'autres personnes.
Comment ça, d'autres personnes?
Bah d'autres personnes, je pensais notamment aux auditeurs de Studio Zef.
Ah ok, mais tu veux t'y prendre comment?
Bah comme ça, en fait, on s'appelle, on discute. Je pense qu'on est sœurs, on est féministes, on peut appeler ça sororité et c'est fait.
Vas-y, ça part.
Ouais, l'autre fois, j'étais en train de parler avec une amie qui est féministe aussi. Et on n'était pas du tout d'accord sur un sujet qui pourtant me paraissait assez clair pour moi. Et ça m'a fait penser qu'en fait, on n'est pas du tout d'accord toujours dans le féminisme en général. Puisque c'est un courant, mais qui a plein de sous-courants et de sous-idées qui posent problème, en fait.
Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, des fois, parfois, on est divisé dans notre propre combat. Parce que voilà, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur certains sujets, et en même temps ça s'entend, parce que chacun a son opinion, chacun a son avis. Mais c'est vrai que si moi je devais parler avec, je sais pas, Elisabeth Badinter par exemple, je pense que je serais pas forcément d'accord avec elle.
Oui, moi non plus. Parce qu'on n'a même pas la même conception du féminisme en fait finalement. C'est même entre personnes, il y a eu plusieurs vagues de féminisme qui se sont succédées, mais en fait, bon, après, ça, c'est normal que du coup, entre l'une et l'autre, ils ne soient pas forcément d'accord. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est de voir que même avec des gens contemporains, on n'est pas d'accord, parce que oui, en fait, on est juste des gens qui ont des opinions différentes et que c'est pas quelque chose qui est... En plus, on apporte des problématiques qui sont assez complexes aussi.
Oui, c'est ça, et puis des problématiques qui sont parfois nouvelles et auxquels les gens n'avaient pas forcément pensé. Ils se retrouvent à devoir se positionner sur des sujets qu'on ne maîtrise pas toujours, en fait. Donc c'est vrai qu'en fait,
oui,
comme toutes
ça.
Les causes qu'on doit défendre, ça demande de travailler beaucoup le sujet, en fait, pour être cohérent et pour essayer d'élargir aussi un petit peu les œillères qu'on a naturellement sur la tête.
Ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait plein de courants différents. Et... J'en ai vu un principalement qui m'a intéressée parce que je trouvais que c'était assez original. C'était l'écoféminisme.
Ok.
Et en fait, il a commencé en 1974. Et c'est une analogie entre l'exploitation de la terre et de la femme, en fait. Et c'est vrai que c'est assez original comme conception, je trouve.
Oui, c'est vrai que moi, c'est un truc dont j'ai entendu parler aussi, où ils font, en gros, ils font, pour eux, la destruction de la nature et l'oppression des femmes sont liées, en fait. Et ouais, c'est un courant qui est né, comme tu disais... fin des années 70, début des années 80, et qui a été créée par des féministes anglo-saxonnes suite à une catastrophe nucléaire qui s'est passée aux USA en 79.
Ouais. Et en fait, c'est en entrant dans le monde capitaliste, que l'analogie entre destruction de la planète et exploitation des femmes a commencé à être faite. Puisque... Du coup, pendant le capitalisme et l'industrialisation, ça, on a ruiné nos ressources, mais on a aussi poussé les femmes à s'enfermer à la maison pour qu'elles fassent des enfants.
Oui, qu'elles aient des bras, enfin qu'elles produisent des bras pour aller travailler.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et ça me fait penser d'ailleurs à ce que il y a une écoféministe du coup qui est historienne et philosophe américaine, qui s'appelle Caroline Merchant, et elle explique en fait que les femmes sont considérées comme inférieures parce qu'elles font partie de la nature et que l'on peut maltraiter la nature parce qu'elle est féminine. Et en fait, ça fait un espèce de cercle vicieux un peu écocide et à la fois sexiste dont on n'arrive pas à se sortir. Et en fait, il y a une espèce de, tu sais, toujours on en revient même tu vois, le féminin, c'est pas bien. Le féminin, on peut marcher dessus, tu vois. On en a déjà parlé un petit peu avant. Mais
ouais,
voilà,
oui,
il y a toujours cette idée-là qui reste. Et c'est ça, en fait, je pense, un petit peu le fondement de l'écoféminisme.
Ouais, et c'est une idée aussi de se réapproprier ce qu'on leur a assigné, en fait, donc les émotions, la sensibilité, tout ça. Ce qu'on a assigné aux femmes, pour affirmer que, en fait, ces qualités, on en a besoin pour construire un monde nouveau et plus juste climatiquement et socialement. Et du coup, elles encouragent les hommes comme les femmes, du coup, à s'en emparer. Et à sortir du dualisme qui est actuel en ce moment, en accordant à l'ensemble de l'humanité les caractéristiques qui est éco-femme, donc le care, l'empathie, et donc égaliser le féminin dans un sens, puisqu'en fait le féminin serait le concept de féminité, en tout cas tel qu'il est construit dans la société, qui est plus sain que celui de masculinité, puisque c'est la sensibilité, la douceur, tout ça. Et elles se battent pour que l'homme... Et du coup, elles se battent pour que l'homme, la femme et la nature puissent être sans aucune exploitation, les trois.
Oui, ça revient un petit peu à ce que tu disais avec la charge mentale. Tu sais, le mois dernier, on parlait de ça, charge mentale et écologie, où tu nous parlais un petit peu du Caire. Et c'est vrai que c'est en plus, c'est comme tu disais, c'est un mouvement qui est encore vivant actuellement. Parce que lors des grandes marches qu'il y a eu pour le climat, tu sais, en 2019, on a pu trouver des pancartes, mort au patriarcat, pas au climat, tu vois.
Oui. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, tout est lié, puisque le capitalisme entraîne le fait, entraîne à la fois. Enfin, le patriarcat est né, le capitalisme est né pendant le patriarcat, sous le patriarcat, et donc ça en découle forcément. Et le changement climatique aussi. Et en découle du capitalisme, donc
il ouais, bah.
Y a un problème. Et du coup, j'ai fait des recherches sur d'autres mouvements, et j'ai entendu parler aussi du black féminisme.
Ah, j'espérais que tu allais m'en parler.
Ouais, c'est super intéressant, parce que ça découle de la prise de conscience de l'intersectionnalité, et donc de la situation sociale. Donc l'intersectionnalité, c'est une situation sociale qui est à l'intersection de plusieurs oppressions, en fait.
Ouais, ça a été un terme qui a été défini par Kimberly Crenshaw, désolée si je prononce mal, en 1991. Et en gros, voilà, pour elle, l'intersectionnalité, c'est un terme qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination dans une société.
Voilà. Et du coup, ici, on parle de... en fait, on croise le racisme et le sexisme. Et donc, c'est pas mal, c'est explicité par la citation « All the women are white and all the blacks are men ». Après, elle continue la citation, mais ce passage-là est intéressant, puisque du coup, elle dit que toutes les femmes sont blanches et tous les noirs sont des hommes. Et ça, c'est une référence de Angela Davis, qui est du coup et Bell Hooks, qui sont des féministes... du black féminisme. Ouais. Et du coup, en fait, c'est pour dire qu'elles n'ont pas été comptées ni dans la lutte pour les femmes, ni dans la lutte pour les blacks. Parce qu'en fait, les noirs, les femmes qui se battaient pour leurs droits se battaient en tant que femmes blanches. Et les gens qui se battaient pour les droits des noirs et se battaient en tant que hommes. Et du coup, elles n'étaient pas comptées, puisque les femmes ne comprenaient pas ce qu'elles vivaient en tant que femmes noires, et les hommes noirs ne comprenaient pas ce qu'elles vivaient en tant que femmes.
Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, à chaque fois, leur combat était mis au second plan, à la fois dans les mouvements traditionnels féministes et aussi dans les organisations qui sont antiracistes, et en fait, dans lesquelles ce sont des hommes qui étaient aux commandes. Hein. Clairement, il n'y avait pas de femmes qui avaient de pouvoir décisionnel dans ces organisations-là, ou très peu. Et ouais, du coup, c'est en partant de ce constat qu'elles ont choisi de créer leur propre mouvement pour être vues et entendues. Et d'ailleurs, contrairement à ce que le nom Black Féminisme pourrait laisser entendre, c'est un féminisme qui ne s'adresse pas que aux femmes afro-américaines ou aux femmes noires en général, parce qu'il est plutôt caractérisé par la volonté de lier ensemble les problématiques du sexisme, du racisme et de l'oppression de classe, en fait. Et c'est ce mouvement qui a donné par la suite naissance, moi, un féminisme que je chéris particulièrement, c'est le féminisme intersectionnel. Donc c'est un courant féministe qui est très influent dans la nouvelle vague, là. Donc je crois que c'est la troisième vague, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, je crois aussi.
Et c'est un féminisme qui permet d'intégrer toutes les différences des femmes, donc en offrant un nouvel espace de visibilité, en associant par exemple sexisme et classisme, donc les luttes des classes, sexisme et homophobie, sexisme et transphobie, sexisme et racisme, etc. Mais ouais, comme tu disais au début, il y a plein de grandes questions qui divisent encore les féministes. Même, enfin, tu vois, là, on a parlé un peu de féminisme pas marginaux, mais tu vois, l'écoféminisme, c'est peut-être un truc dont on entend un peu moins parler. Le black féminisme, maintenant, oui, on en entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Et c'est vrai que dans le féminisme intersectionnel, par exemple, il y a des sujets comme la prostitution qui sont compliqués à aborder.
Oui, c'est ça.
Avec d'autres féministes qui sont pas d'accord, d'ailleurs.
Ouais, en fait, c'est ça, c'est que, d'ailleurs, la prostitution, c'est... Ouais, c'est vraiment un sujet qui pose problème, puisque elle divise au sein même des féministes, parce qu'il y a entre celles qui pensent que le corps des femmes doit être leur propriété unique et qu'elles sont libres de faire ce qu'elles veulent avec, puisque en fait, y compris le prostitué, puisque c'est leur corps et en fait c'est une liberté. Elle considère que c'est une liberté.
Et ça, c'est les féministes qu'on dit non abolitionnistes, qui considèrent que la principale cause de la violence que les prostituées subissent est en fait liée à leur situation de précarité, de clandestinité, de stigmatisation et leur invisibilisation, en fait, parce que comme on les voit pas, on peut pas les protéger. Et Par contre, ce qu'il faut, ce que des fois d'autres féministes ont du mal à entendre, c'est que les non-abolitionnistes, désolé, c'est dur à dire, les non-abolitionnistes ne nient pas du tout l'horreur vécue par les esclaves sexuels et sous la contrainte d'un proxénète ou d'un réseau. Pas du tout. Elles s'efforcent juste de dissocier des situations qui sont précises, en fait. Tu vois, il y a le sort des prostituées qui n'agissent pas aussi sous la contrainte et qu'il ne faut pas invisibiliser et qui ont le droit de gérer leur corps, en fait. Enfin, en tout cas, c'est
oui,
ce qu'elles
ça.
Disent.
C'est qu'elles sont, elles sont pour une prostitution, si on considère la prostitution comme un acte volontaire, choisi, consenti, et elles militent pour que il y ait des lois qui sécurisent leurs pratiques et non pas qui les interdisent, puisqu'en fait, les interdire, ça ne sert à rien, puisqu'on sait, il est toujours présent.
Ça déplace juste le
et
problème.
Donc, voilà, ce serait juste, ça déplace le problème exactement. C'est en fait, il faudrait le sécuriser avec des lieux sains, des limites posées pour éviter par exemple le viol, parce que c'est un gros problème quand même, parce que
sachant
la limite
plus,
est compliquée à avoir pour certains.
C'est ça, avec la stigmatisation dont sont victimes les prostituées. C'est vrai que quand tu arrives chez les policiers et que tu expliques que tu es prostituée et que tu t'es fait violer, je pense
ouais,
que
voilà,
ça doit être très très compliqué d'être entendu.
Effectivement, je le pense aussi. Et du coup, pour elle, pour ces féministes-là, il est judicieux de légiférer la prostitution plutôt que de la prohiber, en fait. Et parce que, comme je disais, en fait, vraiment, l'interdiction n'arrête pas la pratique, puisqu'en fait, tout ce qu'elle fait, c'est la marginaliser. Et donc, le seul effet que ça a, c'est d'empirer leurs conditions de travail. Donc voilà, c'est des travailleuses du sexe sont plutôt cet avis-là.
Ouais, bien sûr.
Donc, c'est quand même les premières concernées.
Et avec la prostitution, on parle quand même ici de ce qui est appelé le plus vieux métier du monde. Et vraiment, pour ma part, je trouve illusoire, mais vraiment illusoire de penser que l'interdire permettrait de limiter le trafic humain. Parce que si cela a toujours existé, parce qu'on a eu des lois déjà qui ont été... qui ont interdit la prostitution et ça n'a jamais empêché
la
prostitution d'exister, en fait.
Ouais. Et puis après, du coup, pour en revenir au débat, en fait, de l'autre côté... Il y a celles qui militent pour la prohibition de la prostitution et qui construisent leur raisonnement sur une prostitution qui ne serait ni réellement choisie ni volontaire.
Voilà, c'est le discours des abolitionnistes, du coup, qui considèrent que la violence est la violence comme inhérente, en fait, à la prostitution.
Voilà, parce que c'est l'idée que la prostitution ne peut pas être un travail à part entière, en fait, et qu'on ne peut pas en tirer de satisfaction, et que si elles existent, les femmes qui le font... consciemment et volontairement, elle serait très minoritaire, en fait. Et la majorité le ferait par nécessité. Du coup, c'est juste un asservissement du corps des femmes soumis au désir masculin. Et donc, il faudrait l'interdire interdire cette pratique pour protéger les femmes et leurs droits à disposer de leur corps. Donc, en fait, c'est un sujet qui divise au sein des féminismes parce qu'en fait, les deux se battent pour la liberté des corps des femmes, mais elles n'ont pas la même façon d'aborder le problème. Et de considérer la prostitution, en fait. Parce qu'aussi, ça dépend de la pratique de la prostitution. C'est quand même la base du problème.
C'est
parce
ça.
Parce qu'il y a des prostituées qui ont envie de le faire et à qui ça plaît. Et il faut respecter ça aussi.
Oui, ça me fait penser à Virginie Despentes dans King Kong Theory, qui parle du moment où elle s'est prostituée elle-même et où elle dit que elle a été forcée de rien et que c'est un moyen de gagner de l'argent et de sortir de son petit supermarché où elle faisait les rayons et où elle gagnait pas un sou, quoi.
Oui, voilà, moi, ça m'a vraiment fait réfléchir de lire Virginie Despentes, ça m'a vraiment fait réfléchir sur la prostitution et parce que j'arrivais pas trop à me positionner. J'arrive toujours pas avec sûreté à me positionner, mais un peu plus déjà.
Ouais, et puis moi, je me dis, même si, admettons, le fait que les prostituées qui choisissent de le faire sont certainement minoritaires, j'entends. Mais même si, admettons, ce n'est que 20%, en fait, pourquoi ne pas lutter pour ces 20%-là? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas... ça veut dire que pour les abolitionnistes, ces 20% n'existent pas.
Ouais, c'est ça.
On peut toujours continuer à lutter contre les 80%. Enfin, moi, personnellement, je pense que je suis plutôt une non-abolitionniste. Et ça ne m'empêche pas de vouloir lutter contre les proxénètes, contre les réseaux qui font du trafic d'êtres humains encore aujourd'hui. Mais en même temps, j'oublie pas les personnes qui veulent le faire de leur plein gré et qui ont envie et qui prennent du plaisir ou peut-être pas. Mais après, combien de personnes prennent du plaisir à aller au travail tous les jours aussi?
Oui, c'est ça. C'est comme dit Virginie Despentes, elle le dit très bien ça d'ailleurs, que c'est pas un travail moins agréable que les autres puisque la plupart des gens détestent aller au travail le matin. Ce qui est le plus triste, c'est quand même le fait que plus la plupart des gens... et on déteste aller au travail le matin, mais bon.
Oui, non, mais voilà, tu vois, et du coup, je me dis, enfin, tu vois, le courant abolitionniste, pour moi, est un peu réducteur, en fait. Il est exclu. Il exclut des personnes.
Ouais.
Et moi, c'est pour ça que j'ai du mal. Après, voilà, comme tout d'habitude, c'est mon avis et que le mien, hein. Enfin, pas que le mien, mais...
Ouais. Oui, oui, non, moi je trouve ça, je suis plutôt ton avis, mais on voit que, enfin, moi je trouve que vraiment les deux positions sont entendables et vraiment, c'est pour ça que c'est des sujets d'autant plus compliqués et qui divisent vraiment les féministes parce qu'en fait, c'est un choix à faire, je pense.
C'est ça. Et c'est
sur la prise de position.
C'est ça, et encore une fois, et je pense qu'il faut beaucoup y réfléchir et essayer de ne pas parler trop vite.
Ouais.
Essayer de se mettre à la place de tout le monde et vraiment d'envisager les choses et. Enfin voilà, moi je pense qu'il y a une certaine liberté qu'il faut quand même protéger. Et d'ailleurs,
ouais, c'est
pour
comme...
faire... Vas-y, pardon.
Vas-y, non vas-y.
Bah, en fait, pour faire le lien avec ce qu'on disait avant, tu vois, le courant non-abolitionniste, il est souvent inclus dans le féminisme intersectionnel. Donc black féminisme et tout ça, voilà. On a découlé un peu black féministe, féministe intersectionnel. Et voilà, le courant non-abolitionniste fait partie de ce féminisme-là. Puisque la prostitution et la liberté d'user de son corps, et c'est une notion importante pour le féminisme intersectionnel.
Ouais. Et d'ailleurs, il y a d'autres sujets qui posent problème. Et on a pu le voir avec Elisabeth Badinter et le voile. Donc ça, c'était il y a un petit moment quand même. Mais elle a beaucoup milité contre le voile, car pour elle, c'était un signe d'asservissement de la femme. Et ça l'est pour beaucoup de gens, je pense, qui ont cette idée en tête. Mais pourtant, il y a beaucoup de femmes qui revendiquent leur droit de choisir de porter librement le voile, en fait. Et c'est toujours le même problème de... quand c'est un choix ou pas, et de protéger les femmes, en fait, il faut pas commencer à, en protégeant les femmes, à prendre
leur liberté
de choix. Mmh. Ouais, droit de décision, ouais.
Ouais, c'est ça, et puis avec ce sujet, on repère encore un deuxième clivage entre deux courants féministes, qui, moi, j'ai vu là récemment sur les réseaux sociaux, et qui se sont écharpés fort, enfin, tu vois, qui vraiment ont été très divisés et il y a eu beaucoup de violence, je trouve. Enfin, j'ai trouvé ça très dommage parce qu'il y a eu du harcèlement. Et voilà, même si on n'est pas d'accord, je pense qu'il ne faut pas en arriver à faire des choses regrettables comme ça.
En fait, il faudrait que la communication ne cesse jamais. Et c'est un problème maintenant.
C'est ça. Et du coup, c'est un gros combat entre les féministes qui se revendiquent universalistes et donc voilà, qui luttent contre la banalisation du voile au nom du respect pour les femmes qui sont forcées de le porter. Et en fait, elles utilisent une interprétation de la laïcité comme principe incontournable, en fait. Et donc, c'est généralement les mêmes qui sont abolitionnistes.
Mais le truc, c'est que c'est pas là du tout la même chose. La laïcité, c'est de respecter la confession de chacun.
Oui, voilà, c'est ça.
Y compris.
C'est pour ça que je parlais d'interprétation de la laïcité.
Ouais, c'est problématique.
C'est ça, et en revanche, le courant féministe intersectionnel, donc voilà, c'est vraiment universaliste et intersectionnel, qui, elle, estime que porter le voile relève de la liberté individuelle, donc on revient à la liberté d'user son corps pour la prostitution, et tout en excluant pas leur position contre le voile obligatoire. Pareil pour la prostitution.
Bien sûr, c'est ça, c'est toujours le problème de... Il faut légiférer pour que ça ne soit pas... qu'elle ne soit pas asservie, mais... Après, l'interdire, c'est une autre façon d'opprimer...
D'opprimer les femmes, ouais.
Bah ouais, c'est ça.
Il y a des femmes qui se sentent très bien en portant le voile et grand bien leur face. Il y a des femmes qui se sentent très bien à se prostituer, grand bien leur face. Et c'est aussi, c'est aussi la question de la transsexualité. Où je sais que dans certaines AG féministes, les transsexuels qui sont des femmes ne sont pas acceptées. En raison du fait qu'elles sont nées hommes, en fait.
Alors déjà, moi c'est toujours un problème d'exclure. Alors déjà, étant donné que c'est des femmes, non. Mais alors d'exclure de toute façon les hommes de la réflexion féministe, je trouve ça dommage, mais bon. Après, on voit que c'est il y a beaucoup. Enfin, juste avec notre conversation, on peut voir que c'est très problématique, en fait.
Ouais, c'est ça. Après, moi, le fait d'exclure les hommes, je peux comprendre que de temps en temps, se retrouver entre femmes pour discuter d'oppression, ça peut être bien aussi.
Je comprends, mais je trouve ça dommage qu'on en arrive à là.
Ouais, moi aussi, je trouve ça dommage. Mais je trouve que vraiment, pour avoir participé à des rassemblements de ce type où il y avait des hommes, les hommes ont tendance à pas en voulant bien faire, hein. Je pense que vraiment il y a beaucoup de bienveillance dans ce qu'ils essayent de faire, et bah, de toute façon ils sont là, donc déjà c'est qu'il y a un questionnement qui est fait, tu vois. Mais quand même, il y a peut-être une petite façon de couper la parole, enfin tu as des petits trucs qui font que ça te ramène à ta condition qui est des fois problématique, quoi.
Et qui est d'avoir moins confiance, en fait, d'être moins en confiance dans l'espace public, et qui engendre ça.
Ouais, exactement.
Tout simplement.
Voilà, j'espère qu'on pourra reparler de tout ça, parce que moi, c'est un sujet qui me passionne, en fait, les différents féminismes. Enfin, j'avais hésité à t'en parler, parce que je sais que c'est des sujets qui sont un peu compliqués. Enfin, tu vois, je me disais, bon, est-ce qu'on va pas se vautrer, quoi.
Ouais, après, c'est compliqué, parce qu'on prend position. Oui. Mais en même temps...
Et c'est, bah, on en revient, voilà, c'est difficile d'assumer aussi ses choix et ses positions, parfois, en public.
Ouais.
Et en tout cas, j'espère que personne n'est heurté par ces débats-là, enfin en tout cas, par ce moment-là, là, qu'on vient de passer ensemble, parce que c'était pas du tout le...
Oui.
C'est pas du tout le but, en fait. Moi, ce que je veux, c'est essayer peut-être de montrer les différentes choses qui se passent au niveau du féminisme.
Voilà, c'est ça. Et je trouve ça plutôt intéressant.
Eh bien, moi aussi, et j'espère qu'on pourra rediscuter de tout ça, peut-être sur d'autres sujets qui divisent les féministes, parce qu'il y en a beaucoup.
Oui.
Et essayer de décortiquer ça, on est avec des faits, quoi.
Carrément.
Eh bien, c'était ça très intéressant, bien. Et bah, je te dis au mois prochain.
Ouais, carrément.
Allez, salut.
À toutes.
Sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, asservies, humiliées. Femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes l'une de les femmes et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons